Don't trust the process.
Trust the process.
This process.
Processus, le podcast avec Mathias Brunet et Simon Snake Boisvert.
Trust the process.
Trust the process.
Saison 2, épisode 19, Simon Snake Boisvert, Pierre-Alexandre Girard. Les gens vont se demander qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé avec notre studio? Ben, on parlait d'émission spéciale et Kent Hughes vient de quitter, était assis ici. On a enregistré un bon 45-50 minutes avec Kent Hughes qui va être disponible vendredi matin pour les abonnés, qui va remplacer l'émission en extra et qui va être accessible à tous. PAG, dans une semaine, c'est ça?
Exactement.
Okay.
Donc, on commence, puis on veut juste... étant donné qu'on offre un Patreon à chaque semaine depuis la sortie du balado, avec du contenu supplémentaire, l'intention est de continuer à donner un petit bonbon à ces gens qui nous suivent depuis le début. Donc, l'épisode Bonnie avec Kent Hughes va être disponible une semaine avant le grand public. Donc, si ça vous intéresse de l'écouter avant tout le monde, vous pouvez aller sur le Patreon de Processus. Sinon, il va être disponible une semaine plus tard sur le channel YouTube de la Commission athlétique, au même endroit qu'on retrouve les épisodes réguliers.
Bon, et ceux qui se sont demandé pourquoi Martin Saint-Louis, lundi, a donné sa conférence de presse devant le vestiaire du Canadien, ce qu'il fait jamais, ben c'est parce que le Canadien a eu la gracieuseté quand même de nous offrir la salle de conférence après la pratique, là où Martin Saint-Louis fait ses entrevues habituellement. On a... j'ai demandé à Kent s'il n'avait pas trop peur des serpents, parce qu'évidemment, c'est notre porte-bonheur. C'est une entrevue où on voulait apprendre à connaître un peu plus les facettes du métier de Kent Hughes, apprendre à connaître l'être humain aussi. Fait que c'est pas une entrevue de débat ou challenge, hein, Simon? C'est ce qu'on avait établi avec Kent. Alors...
Oui, puis c'est pas une entrevue non plus où on lui pose les questions habituelles des conférences de presse. Est-ce que tu vas signer Jake Evans?
C'est sûr que si vous vous attendez à savoir si Kent Hughes va échanger ou signer Jake Evans, c'est quoi sa stratégie à date limite des échanges, vous allez être déçus. S'il y a un truc qui est plus intemporel, puis on a axé nos questions un peu plus sur vous. On a pensé quels seraient vos intérêts. On espère qu'on a réussi... à bien sonder vos intérêts, ben vous allez le savoir dans quelques jours. Et là, ben c'est le moment de notre émission régulière, Simon. Puis évidemment, la Ligue nationale nous a fourni de la belle matière cette semaine.
Ah oui.
Avec un échange étonnant et spectaculaire, Mikko Rantanen, dont tu parles quand même souvent.
Oui.
Tu donnes ton avis.
Oui.
Hurricanes de la Caroline pour Martin Nekash, Jack Drury. Et Taylor Hall qui se retrouve aussi en Caroline et Chicago qui obtient un choix. D'abord, mon premier réflexe, évidemment, notre premier réflexe. Qu'est-ce que tu en as pensé?
Bien, c'est un échange qui est quand même assez complexe à décortiquer dans le sens que Rantanen, les Blackhawks de Chicago sont intervenus comme intermédiaires pour retenir la moitié du salaire. Et en plus, ont décidé de... pratiquement donné Taylor Hall aux Hurricanes de la Caroline, mais le salaire de 6 millions de Hall, c'est la Caroline qui le paye. Donc, finalement, ce que les Blackhawks sont allés chercher, c'est un troisième choix de 2025, en retour du fait de se défaire du salaire de Taylor Hall, qui leur permet en retour de garder une partie du salaire de Rantanen, 4,6 millions. Donc, c'est quasiment donnant-donnant. Quant aux Hurricanes, eux, ils ont donné Martin Nekash 6,5 millions, contrat qui expire en 2026, et Jack Drury 1,725 millions, contrat qui expire en 2026 comme agent libre avec restriction, et un deuxième choix en 2025 et un quatrième choix en 2026 qui s'en vont au Colorado. Bon, qu'est-ce que j'en pense du côté des trois équipes? Caroline, il va pour le tout pour le tout, en allant chercher techniquement le meilleur joueur de la transaction, mais un gars qu'ils peuvent perdre le 1er juillet. Est-ce que ça se peut qu'il l'échange au mois de mars s'il voit que ça ne marche pas, qu'il ne cadre pas bien à l'équipe? C'est toujours une possibilité. On a déjà vu ça. Et avec Taylor Hall, un peu plus de profondeur. Du côté de l'Avalanche, Je pense qu'on ne voulait pas donner plus que à Rantanen plus que ce que MacKinnon gagne. MacKinnon gagne 12,6 millions. On peut s'imaginer que Rantanen avait des demandes salariales peut-être pas aussi élevées que celles de Leon Draisaitl à 14 millions, mais peut-être dans le coin de 12-13 millions. Puis l'Avalanche, n'oublions pas, dans deux ans, vont devoir re-signer Cale Makar. Alors là, on ne voulait certainement pas avoir trois joueurs dont le contrat pourrait se situer entre 12 et 15-16 millions, peut-être dans le cas de Makar. Colorado, en même temps, gagne 2,75 millions de marge de manœuvre sous la masse salariale. Et Colorado, ça, le directeur général l'a dit, ils avaient besoin de profondeur. Alors, avec en ajoutant Drury, ça fait de la profondeur. Et le 2,75 millions également va probablement permettre d'aller chercher un joueur à la date limite des transactions. On conclut avec Chicago. La marge de manœuvre sur le plafond salarial, ce qu'on appelle communément le cap space, c'est un actif. Je trouve que Chicago a gaspillé vous savez, on a le droit de retenir le salaire de trois joueurs.
Ouais.
Ils sont rendus à deux maintenant. Alors, pour moi, ils ont gaspillé cet actif-là simplement pour aller chercher, récupérer finalement un choix de troisième ronde qu'ils avaient déjà donné. Alors, pour moi, Chicago, c'est carrément un échec, cette transaction-là, à moins qu'ils avaient une faveur à faire là, aux deux autres équipes.
Je vais t'amener sur le Colorado.
Oui.
Est-ce que ça serait un peu comme si Edmonton, cet été, avait décidé d'échanger Draisaitl?
L'été dernier, tu veux dire.
L'été dernier, oui. Ou pas?
Bien, regarde. Rantanen, là, je l'aimais beaucoup à son temps, à son année de repêchage en 2015. Puis j'étais content de voir comment ça se passait avec l'Avalanche. Mais il y a un petit côté, je te dirais... un petit peu, comment dirais-je, il y a un petit peu de laisser aller dans le cas de Rantanen par vous. C'est pas un joueur, pour moi, qui joue 60 minutes dans les deux sens de la glace. Puis, je considère que, je sais pas, je peux pas comparer Draisaitl et Rantanen dans la même phrase.
Okay.
Même si statistiquement, ça se rapproche, même si Rantanen, c'est un bien bon joueur à avoir les poules de hockey, Rantanen, j'ai un petit peu... refroidi sur lui depuis qu'il est dans la LNH. Alors, je comprends l'Avalanche de ne pas vouloir donner une fortune à un gars comme ça, avec un plafond salarial, évidemment. Fait que... Puis Martin Nekash, il est rapide. Puis d'après moi, avec un gars comme MacKinnon, il pourrait produire presque autant que Rantanen.
Ben écoute, si ouais. Lekkonen, qui n'est ouais. pas tout le temps avec eux, mais qui produit comme ça... Donc, toi, ta réaction oui. initiale, tu vois cet échange-là,
oui.
tu dis-tu, wow, Colorado, bravo.
Oui. Parce que il ne l'aurait pas re-signé à ce prix-là et il l'aurait perdu pour rien. Et je crois que dans un balado précédent, on a parlé de ça, de l'entêtement des équipes à garder des joueurs qui ne re-signeront pas. Et là, l'argument qu'on me donne tout le temps, c'est oui, mais ils aspirent à la Coupe. Et je pense que Colorado, bon, sans être les favoris pour gagner la Coupe, ils aspirent encore à la Coupe. Et en allant chercher Martin Nekash, je pense pas qu'ils amenuisent leur chance ouais. tant que ça.
J'imagine que Stamkos, tu sais, on parle beaucoup du Lightning, dont on apprécie le modèle.
Ouais.
Ça aurait pas été la même chose à cause de son âge. Ça aurait été plus difficile d'aller chercher un gars comme Nekash.
Je serais très surpris que le retour pour Stamkos aurait été aussi élevé que celui pour Rantanen.
Là, j'ose croire. Puis là, on réunit en Caroline deux complices.
Oui.
Sébastien Aho et Rantanen, qui ont souvent fait la pluie et le beau temps ensemble.
Oui.
J'imagine qu'on s'est informé et qu'on se doute fortement que Rantanen va quand même signer une prolongation de contrat là-bas.
Je suis pas sûr qu'on ait la garantie parce que, encore là, ça dépend toujours de la masse salariale que Caroline veut maintenir. Tu sais, on sait que le propriétaire là-bas est quand même assez impliqué. Puis, est-ce que c'est nécessairement un gars qui va vouloir donner un contrat de 12-13 millions à un joueur?
Pourquoi tu fais ça alors de perdre un gars qui a deux ans de contrat ou un an et demi pour un gars dont le contrat finit à la fin de l'année?
Peut-être que dans leur tête, Rantanen est nettement supérieur à Nekash et que pour cette année, alors que Caroline, on peut le dire, là, c'est quand même ouais. des prétendants à la Coupe, je pense qu'eux autres se disent qu'ils sont montés trois camps avec Rantanen par rapport à Nekash. C'est peut-être leur évaluation de Rantanen qui est comme ça. Puis ils se disent qu'on ne peut pas passer à côté de ça.
Écoute, s'ils ne mettent pas sous contrat long terme après ça, pour moi, c'est un échange que je ne comprends pas du tout.
Bien, oui et non, Mathias. Parce que Nekash est sous contrat seulement jusqu'en 2026. Si on avait parlé d'un échange, s'ils avaient échangé un gars qui est sous contrat jusqu'en 2030, ouais. Là, je te dirais qu'est-ce qu'ils ont fait là.
Okay.
Mais finalement, ils auront perdu un an de Nekash.
Ouais.
C'est pas la fin du monde.
OK. OK.
Puis il y a un aspect qu'on parle pas souvent, je trouve, c'est... Je sais pas si vous avez revu, mais les entrevues de McKinnon après l'échange, il était complètement débité dans le vestiaire. Il avait perdu son grand ami des 10 dernières années, quelqu'un avec qui il avait grandi dans le hockey. Vous trouvez pas que c'est quand même dangereux à l'aube d'une longue run en série de laisser aller une chimie aussi importante?
Non.
Hey! Je le connais comme si je l'avais tricoté.
Ben, c'est parce que Pag, c'est un sentimental. Fait que, tu sais, McKinnon, là, à 12,6 millions, oui, ça peut le décevoir sur le moment. Il perd son ami, il perd son collègue, de son compagnon de trio. Mais en bout de ligne, là, si t'as regardé l'arrivée de Nekash au Colorado, lui puis McKinnon, ça flyait. Alors, pour moi, la réponse, c'est non.
C'est drôle, on parlait de Chicago tantôt. Puis j'ai eu le réflexe en lisant sur Chicago ce matin, où là, on évoque des scénarios dans cette ville-là, des chroniqueurs et tout ça. Hey, là, est-ce que ça serait le temps d'aller chercher un joueur autonome? Est-ce que c'est le temps d'aller chercher Marner? Est-ce que c'est le temps de... T'as un DG qui échange Doc, qui échange DeBrincat, qui ont tout avant 25 ans, qui laisse aller Dylan Strome, et que là, on se retrouve quelques années plus tard, alors que t'es jeune. Ouais. Ta matière première, encore 20, 19, 20, 21. Ouais. Et là, tu parles d'aller chercher des joueurs plus vieux que les DAC et compagnie dont tu t'es débarrassé.
Bien, c'est ça. Ça revient toujours à l'idée de... Le bon plan, là, de prendre 5, 6, 7 ans. À un moment donné, il prend le bord. Et puis là, tu dis, bien d'abord, pourquoi vous avez vidé le club?
Ben,
si vous êtes en train de le remplir au moment où... Non opportun.
Fait que c'est... Donc, je suis pas fou de penser qu'il y a un illogisme total.
Bien, c'est complètement illogique, sauf que là, il doit y avoir peut-être des gens impatients dans tout ça, soit dans la gang de journalistes ou les fans ou peu importe. Mais je te dirais, moi, que le moment n'est pas venu pour Chicago de faire ça pour la bonne et simple raison que ça, un geste comme ça, c'est fait pour compléter un top 6. Ils n'ont pas de top 6, ils ont Connor Bedard, c'est tout.
Oui, Nazar,
peut-être Frank Nazar.
Ouais.
Peut-être Nazar. Bon, bien, mettons, là, on va être gentil, on va mettre Nazar parce que quand même, il est dynamique, le gars. Je l'aime bien. Il en reste 4 postes à combler. Tu vas chercher Marner, il t'en reste 3. Mais là, tu fais quoi? Là, tu re-signes des vétérans pour aller plus vite. Fait qu'est-ce que tu fais? Bien, tu fais comme Détroit, tu te retrouves au milieu de peloton, puis c'est là que tu vas mourir.
Bon. Là, j'ai vu une rumeur. Puis c'est une rumeur, je vais quand même préciser qu'elle n'est pas partout, mais tu sais, il y a quand même beaucoup de rumeurs entre Buffalo et Vancouver concernant Peterson.
Oui.
Puis je veux pas nécessairement qu'on confirme ou infirme cette rumeur-là, mais je m'en sers pour des fins de discussion de notre balado.
Oui, parce qu'on n'est pas fort sur les rumeurs.
Non.
Non.
Et là, on parle d'Ellen Cousins
et
de Bowen Barham, le défenseur, à Vancouver pour Elias Peterson. Moi, ce que je veux savoir, c'est si t'es Vancouver, est-ce que tu le fais? Si t'es Buffalo, est-ce que tu le fais? Puis après, on va juste faire un lien avec le Canadien.
Bien, je vais peut-être surprendre bien des gens, parce que Peterson, c'est quand même une machine à faire des points là, depuis qu'il est dans la Ligue. Sauf qu'Elias Peterson, il est en train de prouver qu'il n'est pas un joueur de série.
Oui.
Très important. Et puis, la tentation pour moi d'aller chercher Byron et Cousins pour Vancouver, elle est très, très forte. Je sais que Bowen Byron a des problèmes de blessure. Donc, c'est sûr que c'est pas une garantie, sauf que j'aime beaucoup Bowen Byron, un bon joueur dans les deux sens de la patinoire. Je me souviens, un des seuls bons joueurs des Sabres. J'étais allé voir le match au mois de décembre contre le Canadien, puis ça avait été un des seuls bons joueurs des matchs, un des seuls bons joueurs des Sabres ce soir-là. Puis Dylan Cousins, je pensais vraiment il y a 2 ans, là, quand il a eu sa saison de 68 points, qu'il montait en flèche. Puis là, je ne sais pas si c'est... Le système de jeu des Sabres, l'environnement des Sabres, je ne sais pas si c'est lui qui a frappé un mur, mais j'ai toujours l'impression, moi, que Dylan Cousins, c'est un solide joueur de hockey à tous les points de vue, puis que sa performance, en tout cas au point de production, sa production pourrait augmenter. Fait que si je suis Vancouver, je pense sérieusement à accepter une offre comme ça. Puis ensuite de ça, bien, ça débarrasse aussi du gros salaire de Peterson parce qu'on le dit souvent, un joueur et son contrat, on ne peut pas le séparer. C'est sûr qu'il y a des trucs... Et s'il n'y avait pas de plafond salarial, on parlerait autrement de l'échange de Rantanen, de Nikash et tout. Mais pour moi, si je suis Buffalo, Byram et Cousins contre Peterson, je le fais pas. Si je suis Vancouver, je le fais. Okay.
Pour nos fans du Canadien,
oui.
Disons que le Canadien veut aller chercher Peterson.
Oui.
Puis que là, on tient compte de cette rumeur-là.
Oui.
Ce serait quoi l'équivalence à payer pour aller chercher un gars comme Elias Peterson?
C'est dur à trouver une équivalence, mais j'ai quand même... Tu sais, j'ai pensé au salaire, j'ai pensé à la durée des contrats, ouais. J'ai pensé à ce que Vancouver pourrait demander. Pas nécessairement ce que moi, je donnerais. Parce que, juste en préambule, moi, si je suis le Canadien Elias Peterson, j'en veux pas.
Oui.
OK. Mais admettons que... On va jouer à ça.
Oui, pour le fun, là.
Bon. Elias Peterson a un gros contrat, un long contrat. On voudrait un joueur de centre en retour. On demanderait certainement Suzuki.
OK.
Mais Suzuki, en ce moment, si on compare à la rumeur, il est supérieur à Cousins.
Oui. Bon. C'est un centre numéro un.
Bien, là, ça, on va s'en reparler. Mais il est supérieur à Cousins.
Ah oui.
Ensuite de ça, qu'est-ce qu'on pourrait demander comme équivalent de défenseur jeune sous contrat pour un certain temps? Kaden Gooley?
Moi, j'avais pensé à Dak et Gooley.
Ouf! Écoute, là, je me mets du point de vue de Vancouver.
Ouais.
Je me mets pas de mon point de vue à moi.
Ouais.
Du point de vue de Vancouver, t'échanges quand même un gars quasiment de 100 points pour un gros point d'interrogation.
Mais
là.
Dylan Cousins, en ce moment, c'est un point d'interrogation.
Oui,
il n'est pas accompli comme Suzuki,
non.
Même si...
Ça, c'est vrai. Mais Bowen, Byram, selon moi,
ouais.
Si tu ne seras pas d'accord, puis bien des fans ne seront pas d'accord, mais selon moi, Byram est supérieur à Gooley.
Bien, puis ça, au point c'est, de ça, vue, c'est sûr.
Puis au point de vue blessure, les deux comportent des risques.
Oui, c'est sûr.
Alors, on compare quand même des pommes avec des pommes. Moi, je pense que le Canadien, c'est pas un match.
Okay.
Puis ce n'était pas un match, si tu veux élaborer là-dessus un peu, ce n'était pas un match pour Rantanen non plus.
Oui. Mais écoute, on s'entend que ça n'a aucune chance d'arriver.
Non.
C'était juste pour essayer de discuter puis de ramener un peu, de voir si...
Mais sais-tu qu'est-ce que ça montre, une discussion comme ça?
Ouais.
Ça prouve que des fois, les fans, rapidement, ils vont voir un joueur disponible.
Ouais.
Puis là, ils vont dire, ah, pourquoi le Canadien ne va pas le chercher?
C'est un bon point.
Puis là, tu regardes l'échange, puis tu dis, OK, il n'y a pas de Nikash à Montréal. Pas qu'il n'y a pas de bons joueurs comme Nikash, mais il n'y a pas un gars dont le contrat expire en 2026 à 6,5 millions.
Faudrait enregistrer, Pag, ce bout-là, puis le repasser en boucle des fois.
C'est-à-dire?
Bien, ce que tu viens de dire, parce que c'est vrai que tu as des gens, des fans, pas tant nos auditeurs qui sont allumés parce qu'on voit quand les croise puis tout ça, mais qui s'imaginent que dès qu'il y a un gars libre, Canadien devrait y aller, mais ça marche. Puis là, tu viens de nous le rappeler. Regarde, avec Peterson, ça peut être compliqué.
Oui, puis Rantanen, on n'en trouvait pas d'équivalence. Le seul qui a un contrat semblable... qui expire en 2026, qui est un vétéran, c'est Mike Madison.
Ouais.
Mais là, tu donnes quoi? Puis Jack Drury, 1,7 million. Fait que tu donnes quoi? Madison puis Jake Evans pour Rantanen? Ça tient pas debout.
Non, c'est ça.
Fait que c'est pour ça que souvent, c'est très, très difficile. Puis des fois, les gens vont blâmer les directeurs gérants puis dire, ben pourquoi vous avez pas bougé pour tel joueur? Vous auriez pu donner ça.
Ben, Patrick Laine.
Ouais.
Tu vois? Dont le contrat finit en 2026.
Ouais.
C'est un petit peu, s'il était en santé puis il avait prouvé sur une longue période, tu te dis, par rapport à Nikash, ils ont à peu près le même âge.
Oui.
Mais tu peux pas parce qu'il y a trop de points d'interrogation avec Laine.
C'est ça. Tandis que Nikash,
c'était
une valeur sûre. Tu sais, comme on dit en termes d'informatique, c'est un plug and play. C'est quelqu'un que tu pouvais prendre, aller mettre sur le trio de McKinnon, puis on savait que ça avait des bonnes chances de marcher.
Il y en a qui disent que tu peux le prendre pour du cash.
OK.
C'est quoi la face que j'ai faite qu'on a mis sur les réseaux sociaux, là, quand tu fais des jeux de mots, c'est ça? Écoute, c'est avec un jeu de mots pareil, qui est presque romantique, je pense que ça finit bien le premier bloc.
Je vais aller prendre une douche.
Processus. You win! Avec Mathias Brunet et Simon Snake Boisvert.
J'espère que t'as pas peur des serpents, c'est notre porte-bonheur. Fait qu'on on le traîne partout.
Au moins qu'il reste dans le milieu de la table.
C'est drôle parce que quand t'es rentré tantôt, puis on te briefait un peu, puis t'as dit allez-vous me parler du repêchage de 2029? Qu'est-ce qui t'a donné le réflexe de penser qu'on te parlerait de 2029?
Mais je sais qu'on parle souvent des prospects, puis je sais que Snake, c'est son... on dit pas de la maîtrise, mais son...
Sa spécialité?
Sa spécialité.
Ouais, ouais.
Alors...
Mais je ne suis pas rendu en 2020.
OK, non, c'est bon. Hein?
Non.
J'aimerais prendre un moment pour remercier Best Buy, le fournisseur officiel de la Commission athlétique, pour tout ce qui est d'équipements technologiques.
Simon, deuxième bloc?
Oui. On commence à s'intéresser pas mal aux joueurs québécois au repêchage de la Ligue nationale l'année prochaine.
Parce qu'il y en a,
enfin. Fait, cette année. Parce qu'il y en a et parce que là, le Canadien, avec la montée récente qu'ils ont eue,
oui.
Peut-être que les joueurs en question se trouvent plus dans la plage où le Canadien pourrait choisir.
Pas ton préféré, par
pas
contre,
mon préféré.
Malheureusement.
Pas mon préféré, mais il y en a d'autres. Et puis, alors, on va y aller.
Me laisses-tu situer les gens? Puis je, pas
oui,
que je veux te couper
vas-y,
la parole,
vas-y.
Je te laisse aller après.
Vas-y.
Au moment où on enregistre,
oui.
Le Canadien repêcherait 14e
oui.
Et 19e.
14 et 19. Bon.
À toi, Simon.
Alors, d'après moi, là, mon préféré, Caleb Desnoyers, ne sera plus là au 14e rang. Et même si le Canadien baissait un petit peu, ça m'étonnerait qu'il soit là au 10e rang. Bien, on va en parler quand même un peu. J'en ai déjà parlé. Centre de 6 pieds 2 qui joue à Moncton. Des chances d'aller très loin cette année, peut-être même en Coupe Memorial. Ça va beaucoup l'aider s'il joue bien dans ce tournoi-là. Pour moi, c'est une vraie locomotive d'un trio. C'est un gars qui est bon dans les deux sens de la patinoire. Il n'a pas peur du trafic. Il n'a peut-être pas un talent élite. Parce que s'il l'avait, on parlerait de lui pour être repêché peut-être dans les deux premiers.
Ouais.
Mais il y a quand même un très bon talent. D'après moi, c'est un gars qui pourrait sortir peut-être entre 5 et 7. Mais s'il y a une grosse coupe mémoriale, ça me surprendrait pas 4 ou 5.
Si le Canadien veut avancer, là,
oui.
Donne un choix de 2.
Oui.
À 10, il n'est pas là à 10-11?
Je pense pas. Okay. Moi, je pense que Caleb Desnoyers, c'est un top 10.
Juste, je sais que tu n'aimes pas ça faire ça.
Oui, vas-y.
Mais pour situer les gens, là,
oui.
Ça ressemble à quoi, Caleb Desnoyers? Juste pour que... Parce que tu le sais, puis c'est pas pour te coincer, oui. Mais c'est parce que les gens s'imaginent des joueurs, puis ça leur... Des fois, ça va les aider à comprendre un peu plus qui est le joueur. Ouais, ça ressemble à quoi, Desnoyers?
J'ai pas de comparable.
Mais donne-moi un peu comment il joue.
Comment il joue? Bien, premièrement, c'est un gars, à partir de la mise en jeu, c'est un gars qui est toujours très impliqué, très aux aguets de ce qui se passe autour de lui, bouge les pieds, les yeux doivent fonctionner aussi, puis le cerveau en même temps.
Ouais.
Alors, il est toujours là, à la bonne place, et il est toujours en train de penser au jeu qui s'en vient et au jeu que lui pourrait faire. C'est un gars qui n'est pas passif sur la glace. Donc, imaginez quelqu'un qui est toujours là pour aller chercher la rondelle en échec avant, il est toujours là pour fabriquer des jeux, il est là pour se placer en position de prendre des lancers. C'est un gars que tu ne peux pas ne pas remarquer. Et d'après moi, ça se transpose tellement bien dans la Ligue nationale de hockey. Il se replie, il patine. Tu ne manques pas, joueur-là.
OK, je vais te donner des
Est-ce
noms.
Est-ce que j'ai bien décrit?
Oui.
Oui.
Puis je vais te donner des noms, puis tu me dis oui ou non.
Oui.
Puis ça, je m'en vais dans tous les sens.
Oui.
Alexis Lafrenière puis Luc Dubois.
Je te dirais, il y a des caractéristiques des deux, mais il est peut-être plus constant, plus impliqué. Mais il y a des caractéristiques des deux, dans le sens que...
Auquel il ressemble le plus?
Ni l'un ni l'autre, mais il y a les caractéristiques. Il y a le chien de ces deux joueurs-là.
OK.
Oui.
Puis qu'est-ce qu'il n'y a pas, puis qu'est-ce qu'il y a des deux par rapport à chacun?
Il est plus impliqué. Plus impliqué de façon constante.
OK.
Alors, de là à dire lequel des deux, il y a le côté peut-être ailier de puissance de Lafrenière.
OK.
Mais peut-être pas aussi fort physiquement, mais là, oublie pas, Lafrenière... C'est un adulte là, qui
ouais.
joue dans la Ligue nationale de hockey. Okay. Desnoyers, c'est un gars de 17 ans. Du côté de Dubois, ben encore là, Dubois, c'est un joueur qui parfois contrôle des matchs et parfois, on le voit pas du tout. Alors, imaginez le côté contrôle des matchs de
ouais.
Pierre-Luc Dubois.
OK.
Ouais. Il est au centre, il fonce, il a peur de personne, il pense à ce qu'il va faire next. Puis c'est vraiment là, un gars, c'est un dynamo.
C'est un Pierre-Luc Dubois, son meilleur.
Oui, c'est ça. Puis Pierre-Luc Dubois a été choisi troisième, hein?
Oui. OK.
Voilà. Ouais.
Fait que c'est sûr qu'à 10-11, toi, tu commences à. Le venin commence à sortir, là.
Ah oui.
Sur le bord des lèvres.
Ah oui, 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 oui.
Tu veux que le Canadien s'avance?
Bien, c'est sûr.
OK.
Ensuite, un gars qui, lui, ça me surprendrait pas que le Canadien le choisisse. Parce que c'est le gars classique qui va être choisi en, probablement en 12 et 20. Où le Canadien se situe dans le repêchage. L'ailier droit de l'Armada de Blainville-Boisbriand de 6 pieds 1, Justin Carbonneau. Justin Carbonneau, c'est un late, mais c'est un gars qui, dès l'année passée, à sa saison de 17 ans, montrait des signes qu'il serait un choix de première ronde. Lui, c'est un gars qui est dynamique, il a un gros lancer, il est créatif et il est rapide. Qu'est-ce qu'il y a de moins que des noyés? Bien, il a peut-être un an d'expérience de plus. Ça rentre en ligne de compte. Et il n'a peut-être pas... Il a peut-être pas les habiletés... Le niveau habileté de Carbonneau n'est peut-être pas au niveau de celui de Desnoyers. Cependant, et c'est un ailier également, c'est pas un joueur de centre. Cependant, c'est un gars qui est extrêmement créatif. Il est toujours... Il fonce au filet. Il n'a vraiment pas peur. Il peut rentrer dans la zone, couper au filet, que ce soit à deux contre un ou non. Et il est dynamique et il y a un lancer en ce moment de la Ligue nationale.
Puis c'est quoi son plafond?
Plafond de Carbonneau, je te dirais deuxième trio. Ailier deuxième trio.
OK.
Mais on parle d'un gars choisi à peu près...
Bien là, si tu le repêches 19, disons,
oui,
là, puis il devient un ailier de deuxième trio, c'est un succès.
Oui, et c'est pour ça que je pense qu'il va être sorti avant 19.
OK.
Oui. Alors, si Canadien, mettons, 14 et 19, puis qu'ils veulent vraiment l'avoir, je pense qu'ils doivent penser sérieusement à le prendre à 14.
OK.
Oui.
Mais aucune comparaison avec Carter Bear.
J'aime mieux Carter Bear.
Pas plus que ça? Je pensais que tu allais me dire... Aucune comparaison.
Non, mais là, aucune comparaison. Carter Bear, c'est pas non plus... pas Wayne Gretzky, là, mais,
oh,
mais je te
okay,
dirais
ça
que...
Fait Carbonneau, il est pas mal, là.
Non, non, oui, il est pas mal, Carbonneau, mais je te dirais que j'ai vraiment Carter Bear avant. Parce que Carter Bear est plus habile, puis je te dirais même un petit peu plus productif.
OK.
Oui. Carter Bear, moi, je l'ai probablement en ce moment top 6-7.
OK.
Carbonneau, je l'ai peut-être plus autour de, je sais pas, là, 13-15.
OK.
Oui. Bon. Ensuite, on descend un petit peu.
Il y en a d'autres.
Oui, il y en a d'autres. Je te dirais, il y a des fins premières, début deuxième. Alors, il y a des, ça, c'est des gars qui risquent d'être là pour le Canadien, dépendant comment le tableau de repêchage des équipes se situe. Bill Zonin, qui joue pour Rouyn-Noranda. Ailier gauche, excuse, de 6 pieds 2. Ça, c'est le typique ailier de puissance. La question est de savoir, c'est un gars qui a un plancher très élevé. Bien, il n'y a peut-être pas un plafond super élevé. Et c'est pour ça que ça m'étonnerait que Bill Zonin soit considéré par les équipes avant, là, au minimum, le 25e rang. Alors moi, je vois en lui un joueur de troisième trio qui est très physique, très travaillant. C'est un joueur qui est très intelligent, mais il n'y a peut-être pas la finesse nécessaire pour marquer un 20-25 buts dans la LNH. Mais je serais surpris, moi, que Bill Zonin n'est pas une carrière dans la LNH.
Mais c'est pas un d'or.
C'est pas un d'or, mais c'est pas un c'est pas un joueur élite non plus.
Qu'est-ce qui fait qu'il est revenu à Val-d'Or?
Bien, ce qui est arrivé, c'est que Zonin, qui était un 2006, il a joué Bantam 3A à Montréal à l'âge de 13 ans,
ouais.
Et ce qui est quand même assez précoce.
Ouais.
Et là, est arrivé en 2020-21 la COVID.
Oui.
Donc, il n'y avait pas de hockey, c'était paralysé au Québec. Alors, il s'est en allé dans un prep school américain où il a joué pendant deux saisons. Et là, il a été repêché par les Huskies de Rouyn-Noranda en 2022. Et il s'est envenu ici. Et c'est sa troisième saison dans le junior majeur. Et en ce moment, tu vois, pour ceux qui s'intéressent,
ouais,
62 points en 43 matchs.
C'est beaucoup.
C'est beaucoup. Même pour un late, c'est beaucoup. Et puis, je sais pas, l'année passée, 58 points en 68 matchs à sa saison de 17 ans.
Est-ce que c'est un cas de joueur qui domine en raison de son physique?
Non.
Et qu'il faut se faire, faire attention?
Ça, c'est bon. C'est une ouais, bonne question. Parce que c'est pas un gars... C'est un gars qui est fort physiquement, mais c'est pas un gars non plus... C'est pas une tour, là.
Ouais.
C'est pas une tour qui fait juste bing-bang, rentre dedans.
Ouais.
C'est un gars qui est, comme j'ai dit, qui est travaillant, il est physique. Et il a quand même certaines habiletés. Donc, pour moi, c'est un joueur de la Ligue nationale quasi assuré, mais pas nécessairement une vedette. Et c'est pour ça qu'il va être choisi probablement, moi, je dirais peut-être entre le 25 et le 40e rang, mon opinion.
Fait que disons que le Canadien débute de... avec le choix de Pittsburgh, deuxième
oui,
tour, il le repêche. T'aurais-tu voulu un d'or ou tu dis c'est un bon choix?
C'est un bon choix.
OK.
Un autre, qui le dernier que je vais mentionner, parce que ça change d'année en année, puis je vais faire une petite parenthèse en terminant.
Oui.
Zachary Morin, un autre Québécois qui est allé aux États-Unis et qui est allé dans la USHL. Il ne jouait pratiquement pas. Et là, il a pris la décision, surtout après le règlement qui lui permet d'aller dans la NCAA, ouais. Il est revenu dans au bercail avec les Sea Dogs de St. John. Ailier gauche de 6 pieds 2. C'est un gars qui a un superbe coup de patin, qui est imposant et qui a des bonnes habiletés. En ce moment, ce qu'on essaie de déterminer dans son cas, il a perdu un peu de temps de développement, moi, je trouve, en allant aux États-Unis, en jouant très peu. Alors, on est en train de voir si, finalement, il va redevenir le Zachary Morin qu'on voyait à l'âge de 14-15 ans, alors qu'il est parti aux États-Unis. Ouais. C'était comme un des prodiges du hockey québécois à l'époque. Alors, moi j'ai confiance qu'il sorte en deuxième ronde. Et ça, c'en est un. Il est peut-être plus un d'or que Zonin, mais il y a un plafond plus élevé que Zonin.
Fait que toi, dans ton genre à toi, là, tu repêches Morin avant Zonin. Te connaissant.
Et sais-tu quoi? On va en reparler. Aha! On va en reparler à la fin de l'année quand on fera ma liste. Je veux voir plus de Morin d'ici la fin de l'année. Parce qu'il est quand même arrivé à mi-chemin dans la saison. Ouais. Je veux voir plus de Morin alors que Zonin, lui, ça fait 3 ans que je le vois jouer, puis je sais ce que j'ai entre les mains.
Parce que tu sais que je veux pas que tu t'adoucisses, là. Puis que tu prennes des choix plus sûrs, là. Je veux que tu restes le bon vieux Snake.
Non, c'est juste qu'à un moment donné...
Je te taquine.
Non, mais ouais. C'est qu'à un moment donné, il y a sûr et sûr. Puis ça, je l'avais déjà parlé. Tu sais, il y a des gars, mettons, tu vas leur donner plafond 9 sur 10, mais les pourcentages de chances d'atteindre le plafond est de 20%.
Ouais.
Il y en a d'autres, ils sont 6 sur 10, mais ils ont quasiment 100% de chances de l'atteindre.
Ouais.
Bien, des fois, je vais peut-être pencher plus vers le gars qui a 100% de chances de devenir un 6 sur 10.
Ouais.
On retombe-tu dans un cours de maths, là? Qu'est-ce qui se
oui,
passe?
Oui, ça va bien, mes mathématiques, d'ailleurs. Pour terminer le segment, bien, il y en a qui se posent peut-être des questions. Qu'est-ce qui est arrivé aux fameux joueurs de 16 ans des Saguenay-Chicoutimi, Alex Wang et Émile Guité?
Oui.
Deux gars qui étaient étiquetés peut-être première, fin première, début deuxième l'année passée. Alex Wang, c'est un défenseur de 36 pieds qui n'a pas un physique très imposant, mais qui est extrêmement habile, un superbe coup de patin, très bon en jeu de puissance. Mais cette année, ce qui fait défaut, c'est la productivité. Et étant donné que les équipes quand même regardent les statistiques, c'est peut-être un gars qui pourrait plonger 3e, 4e, 5e monde, je ne sais pas encore. Mais lui, c'est un bon d'or à lancer, mettons, rendu peut-être fin 2e. Parce que là, t'arrives en fin 2e. Là, tu commences à gratter. Là. Puis là, tu dis, je suis pas mieux de prendre un gars qui, à 16 ans, avait démontré beaucoup de choses. Puis voir qu'est-ce qu'il peut me donner. Peut-être que Wang, l'année prochaine, va rebondir, un peu comme Tristan Luneau. Souviens-toi de Tristan Luneau. 16 ans, grosse, 15 ans, un joueur exceptionnel. 16 ans, un excellent 16 ans. 17 ans, saison plus difficile. Luneau est choisi en deuxième ronde. Le Canadien le laisse passer deux fois, en passant. Et...
Méchard
et Bec, ouais. C'est ça. Et là, à 18 ans, il y a une superbe année. Et à 19 ans, jusqu'à ce qu'il soit malade, il joue dans la Ligue nationale.
Ouais.
Alors, je te dis pas que c'est ça qui va arriver à Guang, mais j'ai pas lancé la serviette.
Mais on gratte-tu tant que ça rendu en fin de pitié? Pour revenir sur l'entrevue qu'on a fait avec Kent Hughes, qui va être diffusée dans quelques jours, quand il parlait de Lane Hutton, puis il disait, quand il voyait avec l'état-major du Canadien les matchs d'Hutton avec le programme de développement qui était loadé de bons joueurs, puis il disait, Hutton est le meilleur de l'équipe.
Oui.
Puis, il a quand même été repêché en fin de deuxième tour.
J'ai une réponse à ça.
Fait que j'imagine que Wang, il doit quand même... Tu grattes pas tant non plus. Il y a des gars qui doivent l'aimer.
Bon. L'idée de gratter, je vais l'apprécier parce que c'est bon ta question. Quand je dis qu'on gratte, on commence à gratter pour des valeurs sûres. Mais des joueurs de talent qu'on ne choisit pas parce qu'on a trop un gros point d'interrogation, peu importe ce que ça peut être, son attitude, son physique, whatever, ça, il en reste.
Ouais.
Il en reste plein. Il en reste plein. La preuve, c'est qu'à chaque année, on fait des épisodes cartes cachées. Moi, je le prendrais là. Ça ne veut pas dire qu'ils deviennent tous bons. Mais il en reste des super joueurs de talent. Mais où les équipes grattent rendues en fin de deuxième ronde, c'est justement dans les valeurs sûres. C'est quoi une valeur sûre? C'est un gars que tu dis, il va jouer 300-400 matchs dans la Ligue nationale.
Ouais. Parlant de ça, là, juste un petit... Ouais. As-tu été surpris, toi, quand Kent Hughes t'a dit programme de développement américain, puis il y avait des gros joueurs, là, McGrory Hartley et compagnie, que lui, pour lui, Hughes, Hutton était le meilleur joueur de cette équipe-là? Est-ce que c'était la même... Avais-tu la même analyse, toi?
Puis comme Kent a dit, il avait dit, pas pour la Ligue nationale nécessairement, mais en ce moment dans le programme américain. En ce moment dans le programme américain, je te dirais... écoute, je préférais quand même Logan Cooley puis Cutter Gauthier.
OK. C'est quand même gros, ça.
Ouais, ouais.
Qu'il l'ait trouvé ouais, supérieur à ouais, ce moment-là, ouais, à ces deux-là.
Parce que Gauthier-Coulé, d'après moi, se démarquait vraiment du paquet. Okay.
As-tu des cartes, tu sais, l'an dernier, tu nous as, puis je sais que c'est tôt,
ouais,
mais tu avais des petites cartes cachées pour les rendre vraiment encore plus loin.
Ouais.
T'en as-tu au Québec?
Bien, je te dirais... En ce moment, j'ai pas encore défini qu'est-ce qui était une carte cachée puis qu'est-ce qui en était pas une. Puis je vais te donner un exemple. Le compagnon de trio de Justin Carbonneau à Boisbriand, Mathéo Nobert.
Oui.
Oui. Qui a joué pour le Lac-Saint-Louis. C'est un gars qui a des très belles statistiques. Je pense qu'il est dans les 10 ou 15 meilleurs pointeurs de la Ligue majeure du Québec. C'est un centre de 6 pieds, mais qui n'est pas encore peut-être très développé physiquement. Puis il pas encore ultra dynamique, je te dis.
Ouais.
Sauf que la production est là. Le pedigree est là. J'ai quand même choisi troisième au total ouais, du repêchage midget. Alors ça, d'après moi, c'est un gars qui risque d'être oublié. Puis peut-être qu'à un moment donné, ça fait partie peut-être des dards à lancer. Parce que le gars a quand même une production digne d'un choix de première ronde. Il mesure 6 pieds, mais pour une raison, pour les raisons que j'ai mentionnées, il y a peut-être des gens qui vont dire bah, on n'est pas sûr. Mais moi, à un moment donné, je ne te dis pas qu'il va faire la Ligue nationale, mais c'est un gars, justement, sur qui je pourrais lancer un dard. Un autre qui a beaucoup baissé dans les classements en raison d'un manque de production, le coéquipier de Wang et Chicoutimi, Émile Guité.
Oui.
Émile Guité, qui était un ailier de gauche de 6 pieds 2, qui jouait avec Caleb Desnoyers dans le midget. Les deux faisaient le plus le beau temps. Guité a été une superbe recrue à 16 ans l'année passée à Chicoutimi. Et là, cette année, oups, il commence à reprendre un peu, mais la première moitié de saison était très difficile. Moi, si un gars comme Guité chute, encore là, je ne garantis pas qu'il va être là.
Ouais.
Mais là, on est rendu à lancer des dards. Moi, Guité, je lance mon dard.
Bon. Parfait. Écoute, un dard, c'est parfait. Et... ça nous fait sourire un peu parce qu'on aime ça, les dards, ici, à l'émission Processus.
Ouais.
Et pour le prochain bloc, j'ai comme l'impression qu'on va être un peu déprimé avec ton équipe. Ça s'annonce pas rose, à moins qu'on repêche Gavin McKenna dans 2 ans ou London Dupont dans 3. Alors, on vous revient avec une équipe dont vous avez peut-être déjà deviné l'identité. Oui. Trust the process. Les Pingouins de Pittsburgh. Un si beau modèle de reconstruction à l'époque. Et je pense que ça va être un méchant beau modèle de reconstruction, mais ouais, ça va être laid comme ça l'a été au début des années 2000, j'ai l'impression. Qu'est-ce qui se passe avec les Pingouins? Où ça s'en va? Où ça a été? Qu'est-ce que tu penses de Mozart à la tête de cette équipe-là?
Oh,
on a plein de choses à dire.
Bien, c'est ça. Pour les nouveaux au podcast, à chaque semaine, on fait le tour des équipes de la Ligue nationale, une par semaine. Et on est allé dans l'ordre inverse du classement. Alors là, rendu au mois de janvier, on est rendu aux équipes qui, l'an dernier, n'ont pas fait les séries. Et les Pingouins en sont une. Et ils ont d'ailleurs perdu leur premier choix. Ils ont perdu leur choix de première ronde malgré tout, le 14e au total, parce qu'ils l'avaient échangé pour aller chercher Eric Carlson l'année d'avant. Et ce sont les Sharks qui en ont profité pour s'avancer au repêchage et choisir Sam Dickinson. Pourquoi je mentionne ça? Parce que c'est une des preuves d'entêtement, soit des propriétaires des Pingouins, soit du directeur gérant ou un peu de tout le monde, à croire que les Pingouins, avec Sidney Crosby, qui est quand même encore un très bon joueur, surtout l'an dernier, que les Pingouins ont encore du jus pour gagner la Coupe.
As-tu l'impression qu'un directeur général, un candidat au poste,
oui,
aurait eu ce poste-là en rencontrant les propriétaires et en disant « faut reconstruire, on met tout à... » On part à zéro.
Je peux pas parler pour les propriétaires, mais moi, j'ai l'impression que non. Cependant, ce que j'ai pas compris, c'est la longueur du contrat de Dubus et le salaire qu'on lui accorde. Alors que le gars avait rien vraiment prouvé à Toronto.
7 ans?
Oui,
7 ans. 50 millions.
Voilà. Là, on parle de salaire probablement inédit là, chez les directeurs gérants de la Ligue nationale de hockey.
Pac vient d'ailleurs de s'étouffer dans son pas de taille.
Alors, en quoi Carl Dubus valait ça, à moins que il était le seul qui voulait le poste, puis qu'on lui a dit, bien, on va te donner de l'argent parce qu'il n'y a personne d'autre qui en veut. Parce que je suis pas mal sûr qu'il y a des directeurs gérants qui voient où les Pingouins s'en vont et des candidats qui se sont dit, oh là là, je m'embarque pas dans ce galère-là.
Je pense qu'il aurait été mieux que Mathieu Darche si on l'avait écouté.
Oui, mais encore là, est-ce que les Pingouins voulaient reconstruire? On a vu dès le départ, en allant chercher Carlson, qu'on essaie encore de faire une run supplémentaire vers la Coupe. Et là, on nous arrive dernièrement, M. Daubus nous explique que là, il va reconstruire, ou en tout cas, quelque chose de même. OK, là, il m'a vraiment perdu, là. Si on fait un peu l'inventaire des contrats, là, on a encore Sidney Crosby sous contrat jusqu'en 2027, Evgeny Malkin jusqu'en 2026, Brian Rust et Rickard Rakell jusqu'en 2028, Eric Karlsson jusqu'en 2027, Chris Letang jusqu'en 2028 et Ryan Graves jusqu'en 2028.
Wow.
Et ça, c'est sans compter Tristan Jarry jusqu'en 2028, qui vient d'être cédé aux mineurs et mis au ballottage et personne n'en a voulu. Alors, comment tu te sors de cette fausse sceptique-là?
Comment tu te sors de cette fausse sceptique-là, Simon?
Oui. Écoute, habituellement, là, dans les reconstructions, j'ai réponse à tout. J'ai pas toujours raison, ouais, mais j'ai tout le temps réponse à tout.
OK.
Là, attends, je ne l'ai pas réponse.
Puis là, t'as Crosby et Malkin qui, ouais, probablement ne veulent pas partir.
Ben c'est ça.
Fait que Simon Boisvert, il fait quoi?
Oh là là.
Oui, oui.
Tu sais, qui veut de Brian Rust pour 4 ans? Qui veut de Rickard Rakell à 5 millions pour 4 ans? Qui veut de Ryan Graves à 4,5 millions? Quoique ça, c'est peut-être plus échangeable.
Hein?
Ben, je sais pas.
Ryan Graves, ouais, il est rayé, ouais, de la formation, ben, c'est régulièrement.
Ça. Non, mais des fois, il y a un directeur général qui peut sauter là-dessus. Tu sais, c'est un gros, là, un bon physique. Comment t'as fait un gros physique, okay, imposant, là, c'est ça, là. Fait que...
Rust et Rakell ont quel âge?
Ben, Rust et Rakell, 32 et 31. Alors, qui veut de leurs joueurs? Tu sais, des fois, tu pars une reconstruction puis tu dis, on a des actifs attrayants.
Ouais.
Tu sais, les Sharks de San Jose, ils avaient Timo Meier. Ils avaient Thomas Chertel. Tu sais, c'était des gars au moins...
Eric Carlson.
Eric Carlson, après sa saison de 100 points,
ben oui,
l'exemple parfait, ben, d'échanger, oui, un gars alors que c'est...
Voilà.
Sa valeur avait jamais... ne sera plus jamais aussi élevée. Alors là, tu pourrais dire, ben, les Sharks, tu sais... Puis malgré tout, les Sharks, on peut pas dire qu'ils sont allés chercher maire et monde pour, non, ces joueurs-là.
Ouais.
Tu sais, il n'y a pas eu... Tu sais, ils ont été chanceux avec le fait que les Pittsburgh, leur choix était plus bas. Ils ont été chanceux que... tu sais, peut-être avec les joueurs qui vont repêcher avec ce qu'ils ont obtenu en retour. Par exemple, Thomas Chertel, ils ont obtenu David Edstrom et un premier choix, et ils ont viré de bord et ils ont obtenu, ouais, Yaroslav Askarov. Bon. Mais en général, on ne peut pas dire que le retour... Alors, Pittsburgh, là, ils vont avoir quoi pour ces joueurs-là? Rien. Alors là, tu dis, est-ce qu'on est assez poche pour rejoindre Chicago, San Jose dans le trou? Ou est-ce qu'on est juste assez poche puis pour avoir repêché 8-9e, mais pas assez poche pour repêcher premier ou deuxième? Et là, c'est... Tu sais, on parle souvent du no man's land de milieu de peloton. Là, Pittsburgh, c'est même plus le no man's land de milieu de peloton. C'est le no man's land de la reconstruction. Il n'y a rien de pire que de tout le temps repêcher 8-9e.
Écoute, je suis à court de mots par rapport aux Pingouins. Donc, allons-y par étapes,
oui,
là, puisque c'est très compliqué.
Oui.
Qui a de la valeur?
Mais pourquoi vous prenez pour acquis qu'ils sont inéchangeables, Malkin et Crosby?
Ils veulent pas partir.
Ben voilà.
Mais comment vous savez?
Parce qu'ils arrêtent pas de répéter qu'il y a deux... À part Crosby, Malkin, puis une couple d'autres, ils sont pas échangeables. Puis on entend souvent de Pittsburgh que ces deux gars-là ne veulent pas partir.
Bon, bien, on va prendre Malkin, par exemple, OK? Bon, Sidney Crosby, c'est un monument, là, à Pittsburgh. Ouais. Mais on va prendre Evgeny Malkin. 6,1 millions jusqu'à la fin de 2026. Une équipe, en ce moment, qui se dirait, bien, écoute, il reste une saison et demie, deux séries éliminatoires avec lui. On va lui parler, puis on va lui dire, écoute, tu peux peut-être gagner une autre coupe, mon Evgeny.
50 % du salaire.
Oui, 50 % du salaire. Mettons une équipe là, comme Floride, comme...
Colorado.
Pas moi, Colorado, exemple. Puis on va dire, écoute, viens-t'en, mon Evgeny, là, puis peut-être qu'il va dire oui. Raymond Bourque avait dit oui, ouais, à l'époque. Bon. Et là, Pag, tu donnes quoi pour lui? Tu donnes quoi pour un joueur
là,
de
il a ralenti. Il,
oui,
commence tout le temps fort.
Ouais.
Tu donnes au moins quand même un choix de premier tour. Puis un espoir...
Ouais, bien là, tu te retrouves avec l'échange de Thomas Chertel, David Evstrom, puis le choix de
ben,
Vegas qui est
en fin
première. Oui, mais...
Tu sais, t'as des Owen Beck, pas Owen Beck, excuse-moi, Meshar, t'as Mayu que tu peux offrir.
Ah, oh, pour Canadien?
Ben oui.
On parlait pas,
ouais,
du Canadien.
Ouais, puis t'es en train de me dire, Pag, que c'est avec ça que tu reconstruis?
Non, mais...
Non, mais... Je veux dire, tu donnes... tu me poses la question, qu'est-ce que tu donnes pour avoir...
Mais je parlais pas du Canadien, moi, parce
non,
que
non,
le Canadien...
Non, non, mais, non, non,
pas,
mais c'est ouais, bon ce qu'il ouais, dit quand même. Là. On peut multiplier pas ça par 31 équipes, là. Ouais. Tu donnes Méchard et Mailloux.
Non, mais je dis pas que je fais un pack.
Je m'en vais où avec ça? Moi, je suis Pittsburgh,
ouais,
Méchard et Mailloux.
Oui, mais tu penses qu'il y a eux, et peut-être qu'ils pensent qu'ils sont bons, tu sais, un bec ou un...
Oui, mais
ouais,
c'est ça. Non, mais... Alors, si moi, on me donne l'équivalent
ouais,
de Méchard et Mailloux, puis c'est justement ça mon point, il vaut pas tant que ça, Malkin. Mais là, moi, je me dis, écoute, je l'ai donné pour rien, puis...
Mais t'es, au moins, t'as...
Tu t'es débarrassé, tu l'as
un succulent choix de fin de premier tour.
Ouais, OK.
Mais qui a de la valeur?
Personne. Honnêtement, Mathieu.
Non, sérieux,
personne.
Là. Trouve-moi-en un. Je veux que tu m'en trouves un.
Mais Mathieu, je ne sais pas. Ils ont tous 34 ans, 37 ans.
Qui avait de la valeur?
Oui, Marcus Patterson.
Qui avait de la valeur? Jake Guentzel.
Oui.
Puis on a trouvé le moyen d'aller chercher trois espoirs B.
Oui.
Un choix de deuxième tour, puis un Michael Bunting.
OK.
On a gaspillé Guentzel.
Là, je suis pas là pour défendre Dubus, puis tu sais. Mais je me pose la question. C'était quoi les offres?
Ben écoute, le gars vient de signer à 9 millions. C'est sûr qu'il va avoir des offres quand tu regardes ce que
ouais,
les
mais,
autres
ouais,
équipes
mais,
ont.
Oui, mais on en parle tout le temps à chaque date limite de transaction. La valeur d'un UFA, c'est-à-dire un joueur autonome sans compensation, c'est pas très. Tu sais, ça dépasse jamais vraiment.
Elias Lindholm.
Oui. Ben ça dépasse jamais un choix de fin de première ronde puis un espoir de deuxième plan.
Qu'est-ce que Calgary a quand même eu une coupe d'espoir, là? Plus un choix ouais, de première.
Oui, mais tu sais, ça demeure quand même des choix de fin première. Oui, c'est bon, tu peux rebâtir ouais, avec ça, tu peux aller chercher des... Je le sais qu'il y a toujours des bons ouais, joueurs à aller chercher, mais c'est pas... À Pittsburgh, leur reconstruction passe par la cave. La cave, pas le huitième ou neuvième ouais, choix.
Mais ça va coûter des vétérans productifs aussi, là, plein, là. Coûter cher.
C'est que comment, tu sais, il y a des équipes, tu dis, là, comment faire pour être poche? Ben, tu fais comme Chicago. Tu vides l'équipe, puis tu signes un paquet de joueurs en fin de carrière
ouais,
qui valent rien. San Jose a fait un peu la même chose. Mais là, Pittsburgh, t'es pogné avec ces joueurs-là qui sont quand même encore juste assez bons pour te faire gagner des matchs.
Ouais, ben de moins en moins, là.
De moins en
regarde
moins.
Regarde où ils sont. Oui. Tu vois, ils viennent de passer l'étape d'embaucher des vétérans qui ne produisent plus.
Bon, ben, t'as dit tout à l'heure, là, aller chercher Gavin McKenna puis Landon Dupont. Bon. Est-ce que cet alignement-là que tu vois en ce moment est vraiment assez poche? Je sais qu'il y a une loterie, là, ouais, mais est assez poche pour encore challenger Chicago puis San Jose?
Ils sont pas très bons, là. Pag, regardons le classement général, là.
Ouais.
Ils sont quand même bas, là. Puis ils vont être encore moins bons l'an prochain.
Ah!
Tu sais, pour le repêchage de 2025, c'est pas la fin du monde qui repêche 7-8e, mais l'année prochaine, ça peut être...
Non, mais c'est quand même un club en ce moment qui est 14 points en avant des Sharks.
Bon, au moment où on se parle, ils sont 9e dans le classement
c'est
classé
ça,
par Wild Card sur 10.
Cette année. Pour cette année, c'est pas si pire, mais l'an prochain, il faut qu'il soit mauvais.
Puis dans la Ligue, ils sont 26e au moment où on se parle.
26e, donc ils repêchent 32, 31.
Top 5.
Hein?
6e.
C'est pas pire.
Ouais.
Ça puis c'est bien. Qui l'équipe qui... pour qu'ils rentrent dans le top 5, ils sont à combien de points du top 5?
Tu veux dire des derniers top 5? Seattle ont 47 points.
Ouais.
Pittsburgh en a 48.
Oui, Anaheim en a 46.
Ben, c'est un bon départ.
Oui, mais Nashville en a 43, Buffalo en a 41,
ouais,
puis il y a Chicago, San Jose.
Mais top 5, déjà, c'est un bon départ.
C'est un bon départ. Mais là, après ça, combien d'années dans le top 5? Tu sais, c'est sûr que si tu vas chez Gavin McKenna ou Dupont, t'accélères.
Oui.
Mais si tu as toujours, mettons, un quatrième, un cinquième choix et que tu n'as pas de base...
Je suis pas inquiet, ils vont être mauvais.
Bon, ben c'est ça. Alors,
mais ça va être long.
On va leur souhaiter que les années où ils sont mauvais, qu'il arrive la même chose qu'en 2004-2005, Malkin, Crosby.
T'sais, on parle du mix, là. Eux sont à une victoire de bondir du 26e rang au 22e rang.
Bon,
mais ouais, mais ils ont pas mal de matchs de jouer.
Ouais,
ils
ont de plus.
De
ouais,
plus que les
ou
autres.
Bien rappeler Tristan Jarry.
Ouais. Hein? Est-ce qu'on peut regarder un peu les. Ah oui, Tristan Jarry serait une bonne équipe. Une bonne idée. Pourquoi hein? Pas le faire jouer, oui. On va regarder un peu les jeunes.
Je m'en allais là.
Un joueur honnête à la défense, 4-5e défenseur, Owen Pickering, premier choix il y a quelques années, qui est venu jouer quelques matchs ici, qui se débrouille bien, Mais encore là, c'est un joueur vraiment complémentaire.
Pour donner une image aux gens, oui. Tu le compares à, comparativement à Caden Goulet, qu'est-ce oui. que tu dirais?
Bien, premièrement, Goulet est plus aguerri aussi, mais je te dirais que non seulement il est plus aguerri, mais il y a un petit peu plus, il y a un petit peu plus de oomph, là, Goulet.
Okay,
il y a
un petit peu plus de gros plafond.
Il y a un plus gros plafond. Bon.
Parce alors, qu'il l'aime beaucoup là-bas, c'est un 14e au total, si ouais, je ne m'abuse.
Je pensais que c'était 20, mais en tout cas.
Ah c'est pas oui, grave. Oui, 20, ouais, excuse-moi, ouais, 20-21. Ouais.
Moi, Pickering, je l'aimais bien à son année de repêchage, ouais. Mais pour moi, c'est un 4, là.
Au mieux.
Dans une équipe championne. Bon, alors, il y a encore, ça prend encore un défenseur numéro 1, défenseur numéro 2, t'enlèves Carlson de temps d'équation. Bon. Dans les jeunes qui jouent en ce moment, Philippe Tomasino, qu'on a rescapé de Nashville. Ouais. Joueur, je te dirais, très, très talentueux, mais pas trop intéressé à d'autres choses sur la glace que de compter des buts. Alors, autrement dit, un joueur qui joue dans une zone seulement, et c'est pour ça que Nashville s'en sont débarrassés. Bon. Alors, c'est pas avec ça qu'on va reconstruire. Et il y a Rutger McGroarty qu'on est allé chercher.
Ils ont l'air encouragés, là. De ce temps-là, je ne sais pas si on.
Par McGroarty. Ouais. McGroarty joue mieux. Je l'ai regardé justement il y a une semaine, j'étais curieux. Il joue mieux, joueur que j'aime bien. Mais encore là, tu sais, on parle dans un club champion, McGroarty, quoi, ton sixième, septième meilleur attaquant?
Ouais,
mais là, okay, ils sont là, on est dans le trouble.
Ils sont loin d'être champions.
Ben, on est dans le trouble. À part ça, ben, tu sais, il y a des joueurs plus long shot, là, comme Tanner Hall, qui jouait avec Connor Bedard dans le junior. Ouais. Alors, c'est ça.
On a oublié un qui peut avoir une valeur quand même, justement, puis tu l'as nommé, c'est Marcus Pedersen, le défenseur.
Oui.
Non, il peut rapporter quelque chose, lui?
Oui, je pense que oui.
Joueur autonome, sa compensation?
Oui, c'est ça, à 4 millions. Alors, imagine, à la date limite des transactions, il y a le trois quarts du contrat qui a été déjà écoulé. Ouais. Et on peut retenir peut-être du salaire, quoi, que Pittsburgh. Oui, Pittsburgh a encore une case où ils peuvent un salaire qu'ils peuvent retenir.
OK.
Oui. Alors, mais Marcus Pedersen, qu'est-ce qu'il peut rapporter? Un choix de deux?
Pas plus que ça. Je pensais qu'il faut au moins un choix de premier tour. C'était quand même un défenseur de première paire à Pittsburgh.
Bon, mettons. Mais 31e choix, 30e choix.
Ben, c'est que là, déjà, là, si tu vas en chercher deux Malkin,
mais c'est quoi, Mathias? C'est qu'il va falloir qu'il le fasse ou qu'il le fasse pas. Tu sais, si c'est juste une question de grignoter des joueurs, puis de prendre des bouchées, puis de dire... Ouais. Non, grignote pas le biscuit, mange-le.
Oui, oui. Il échange tout ce que tu peux.
Échange tout ce que tu peux. Mais, en tout cas, ils ont beaucoup trop attendu. Ça, je pense que tous les analystes s'accordent à dire qu'ils ont attendu années de trop. Mais c'est toujours difficile quand tu as Sidney Crosby, qui performe encore. Mais, tu sais, pourquoi pas, des fois, tu jases, puis tu te dis, bien, écoute, aimerais-tu aller ailleurs? Tu sais, on ne sait pas les conversations qui se passent.
Ça a dû être discuté,
parce que Crosby au Colorado, on entend parler de ça depuis 2-3 ans.
À Montréal. Pour le fun, pour le kick.
Ça serait pour le kick parce que je pense pas que le Canadien est proche de la Coupe, contrairement à ce que toi et certains pensent.
Moi?
Mais oui, je sais pas. T'es pas dans le pro canadien, il s'en vient vers la Coupe l'an prochain, non?
J'ai-tu déjà dit ça?
Ben non, mais.
L'an prochain?
Non, mais tu sais, des fois, je lis dans ta tête. Là.
Ah, tu t'essaies de lire dans ma tête.
Oui, Pag aussi. Lui, il pense que Crosby, là, à Montréal, là,
moi, l'an prochain, je pense qu'ils peuvent aspirer aux séries éliminatoires.
Moi aussi.
Puis je pense que rêver à la Coupe, c'est au moins 3 ans.
Ouf. Plus 4-5. Mais les séries l'an prochain, je pense que oui.
Okay.
2025-2026, bon, je pense que oui.
On est à la même
place. Là, après ça, ça dépend comment... En tout cas,
on est à la même place.
Oui, c'est ça.
Ouais. Bon, on a-tu fait le...
Ah, on a fait le tour des Pingouins, puis...
Ah oui?
Oui, oui. Écoute, c'est que dire de plus que... Mais on peut finir là-dessus. Si tu étais un parieur, Mathias, est-ce que Carl Dubus termine son contrat ou non?
Ben non. Mais
tu sais, ça va coûter cher, là.
C'est de voir comment certains individus parviennent à se bâtir une réputation.
Avec pas grand-chose.
Tu sais, John Chaika, là, en Arizona...
Oui.
Il discutait pour un poste pour chapeauter une équipe de... C'était-tu la NFL?
Oui.
De hockey,
NBA, je pense.
NBA au New Jersey.
Ah oui, oui, oui.
Il était rendu... On le voulait dans les hautes sphères de d'équipes de différentes
oui,
ligues.
C'est parce que le propriétaire des Devils est propriétaire de d'autres équipes
oui,
sportives.
Alors que c'est un
NBA,
incompétent.
NBA et NFL, ouais.
Alors que c'est un incompétent.
Ouais, mais
les Dubus, tu vend... dis...
Des gars qui vendaient bien leur salaire. Dans mon sens, Chica, je pense que sa sœur connaît plus d'or que lui. Puis je dis pas ça en,
ouais.
de façon ironique.
Oui, ouais, elle intervient beaucoup sur les
elle
réseaux sociaux.
Puis ouais. elle a des modèles statistiques, Megan Chica.
Ouais. Ouais. De toute façon, les gars, un pingouin, ça n'a jamais volé bien, bien haut. Fait que okay. ça va prendre quelques années.
Alors... Mais là, mais par contre, si je peux me permettre, ouais. c'est que ton jeu de mots ne fonctionne pas parce que les pingouins ont déjà volé haut.
C'est vrai.
Fait que là, à trop vouloir un jeu de mots, parfois, tu es injuste envers le pingouin. Est-ce que ça met fin à notre blog sur les pingouins?
Dieu merci, oui.
Trust the process. Pédale plastique du pont.
Ils sont bien résumés. Moi, j'ai pas de pont.
Bon.
Déjà sur la rive sud.
Voilà. T'as la lune du pont.
Oh, OK.
Ah! Ah non, là,
arrêtez-le,
il est bon.
Arrêtez-le.
Il semble bel un mauvais effet sur lui. Simon, on est rendu à nos... C'est pas parce qu'on est au Centre Bell dans la salle de conférence du coach qu'on prendra pas trop question de nos auditeurs comme à chaque semaine, évidemment. Et on commence avec Marc-Antoine Corneau. Que pense le Snake de la saison de Quinton... Oh, intéressant. De Quinton ah oui. Byfield jusqu'à présent, après une éclosion l'an dernier, est-ce qu'il a stagné ou sa production correcte n'est due qu'à un concours de circonstances? Toujours sur les Kings. Est-ce qu'Alex Turcotte surprend le Snake alors qu'il joue sur le premier trio avec Kopitar et Kempe?
Bon, ben écoute, un 2-2 pour les
ben
Kings.
Oui.
Je te disais que Quinton Byfield, c'est le même joueur que l'an dernier. C'est juste que, tu sais, des fois, ça va arriver surtout chez les jeunes joueurs. Des fois, la production est plus élevée une année qu'elle devrait l'être. D'autres fois, elle est moins élevée. Ouais. Puis à un moment donné, ça se stabilise. Dans le cas de Byfield, moi, j'aime toujours son jeu. C'est un gars qui est extrêmement imposant sur la glace. C'est un gars qui transporte la rondelle. Il transporte des gars sur ses épaules. Ouais. Il est assez dynamique, je te dirais. Mais je serais pas trop inquiet, moi, de son manque de production cette année. Par contre, est-ce qu'éventuellement, ça va devenir un 80-90 points? Je ne pense pas. Mais c'est quand même un joueur extrêmement utile. Puis je pense que c'est un joueur typique là, de l'époque des Coupes Stanley des Kings. Tu sais, c'est un genre de Kopitar version mini,
ouais.
là, miniature. Puis je pense qu'éventuellement, ça va être un joueur qui peut avoir de l'impact. Il y en a déjà quand même un peu, mais pas nécessairement le producteur de points que certains attendent. Vas-y, Mathias, avant que je parle de Turcotte.
Tu avais évidemment Stoudzili premier.
Oui.
Byfield ou Lafrenière?
J'avais Byfield avant.
Non, mais aujourd'hui.
Encore Byfield.
Oui.
Oui, puis c'est pas par entêtement, là.
Byfield ou Slavkovski? Non, il réfléchit.
C'est tough, c'est pas le même âge.
Oui, mais quand même, tu fais. Les Kings t'appellent, on t'offre Byfield, tu nous donnes Slavkovski.
Étant donné que je sais ce que je sais sur Byfield, je prends peut-être une chance de prendre Byfield.
Ah oui. OK.
Ouais.
Intéressant.
Parce qu'il est rendu plus loin dans son développement.
Je te laisse aller avec ouais. Turcotte.
Turcotte, non, ça me surprend. Ben, ça me surprend pas. Qu'il soit sur le premier trio, oui, mais c'est pas un joueur de premier trio. C'est juste que Turcotte, je crois, est un bon complément à Kopitar et Kempe parce que Turcotte, il est extrêmement travaillant. Il va chercher la rondelle dans les coins et on pense un peu comparaison pas d'impact, évidemment, ou de statistiques. Mais tu sais, des fois, on va mettre un Zach Hyman à Connor McDavid. C'est pas parce que Zach Hyman est un joueur de premier trio. C'est parce que c'est un joueur qui complète le travail des deux autres.
Il y en a score un paquet.
Oui, il y en a score un paquet, mais ce que je veux dire, c'est que Turcotte, il complète le travail de Kopitar et Kempe, mais pour moi, ça demeure quand même un joueur de bottom six. Mais ce que j'avais aimé l'an dernier, alors qu'il se rétablissait des nombreuses blessures qu'il y a eues, on l'avait carrément déclaré mort et enterré, j'avais aimé l'an dernier, à son rappel, la hargne qu'il démontrait puis les petites choses qu'il provoquait.
Okay.
Et puis, à ce moment-là, j'avais eu l'impression... J'ai dit, ouais, Turcotte, je crois. Puis je pense qu'il y avait une question sur lui dans un podcast. Puis j'avais dit, Turcotte, d'après moi, va être un joueur de la Ligue nationale. Cependant, est-ce qu'il va être aussi bon que son rang de sélection, c'est-à-dire cinquième au total en 2019? La réponse est absolument, mais absolument pas. Mais on salue la patience des Kings qui, après 6 ans, ne s'en sont pas débarrassés.
Bon. On a une question ici de Acer ZM.
Oui.
Je Je me demande si c'est pas une question de Simon Snake Boisvert.
Non.
Pour passer un message.
Non.
T'es sûr?
Écoute.
Salut, Snake.
C'est pas mon genre.
Ça commence bien?
Oui.
T'as bien masqué ton... Je me demandais si tu échangerais Lynn Hutson contre McLean Celebrini un contre un. Je trouve que Celebrini est vraiment sous-évalué. La majorité de mes amis me trouvaient fou de dire que Celebrini était meilleur. Tu me laisses-tu commencer? Parce que toi, on sait c'est quoi
oui,
ta
Mathias.
Réponse.
Oui, Mathias, vas-y.
À Serres et M, si la majorité de tes amis te trouve fou de dire que Celebrini est meilleur que Hutson, t'es peut-être pas dans le bon cercle d'amis. Non? On l'aime, Hutson. Bon, vas-y, mais là, même moi, là. Même moi.
Moi, je pense que la question, c'est toujours que je me pose, mais en fait, il y en a deux. C'est premièrement, est-ce que tes amis ont vu jouer Celebrini jouer cette année? Mais surtout, la question que je me pose, c'est si t'es amis étaient fans des Sharks et qu'on leur proposait l'échange, est-ce qu'ils échangeraient Celebrini pour Lynn Hutson? Ça, je pense que c'est la grosse question. Celebrini, on parle ici d'un joueur qui, déjà à 18 ans, a un gros impact offensivement avec les Sharks. C'est un gars qui est complet, qui va devenir probablement un des cinq meilleurs joueurs de la Ligue nationale à son apogée et qui, je crois, a tout le potentiel pour devenir le centre numéro un d'une équipe qui pourrait gagner la Coupe Stanley. Bon. Alors, je pense qu'on ne peut pas vraiment là, comparer Hutson et Celebrini. Il faut... Tu sais, les fans, là, pousser, mais pousser égal, là.
Voilà.
Ouais.
Hugotin, Fougère. Cole Hutson, tiens, on reste en famille.
Oui.
A été repêché 43e. Le CH avait gaspillé son 37e choix avec le fiasco de l'échange de Dvorak. Va-t-on encore plus le regretter s'il était potentiellement dans la mire du CH? Quelle est son évaluation?
Alors, le fiasco de l'échange de Dvorak, juste pour préciser, c'était à l'époque de Marc Bergevin.
Ouais.
Donc, souvent, les administrations suivantes récoltent ce que la précédente a semé. Des fois, c'est bon, des fois, c'est moins bon. Et ça, dans ce cas-ci, le Canadien a perdu le 37e choix. Est-ce que Cole Hutson était dans la mire? Je ne le sais pas. Il y en a beaucoup qui se disent que Cole est le doublon de son frère. Moi, je suis plus ou moins d'accord que c'est le doublon de son frère. Pour la bonne et simple raison que c'est un défenseur qui est beaucoup plus traditionnel. Son frère fait des choses qu'on n'a jamais vraiment vues faire. Avec les bons et les mauvais côtés qui viennent avec. Ouais. Cole Hutson est un petit peu plus fort que Lane. Il est peut-être plus solide physiquement dans sa zone. Il n'a pas le maniement de la rondelle de Lane. Mais il y a un coup de patin peut-être en ligne droite, peut-être meilleur, plus fluide. Moi, personnellement, ils ont deux ans de différence, là. J'ai toujours préféré Cole à Lane. Mais est-ce que Cole va avoir les statistiques de Lane? Je pense pas. Est-ce que je pense que dans l'ensemble, il va être un meilleur défenseur à Washington que Lane ne l'est à Montréal? J'ai encore l'impression que oui. Puis la Ligue nationale a dû passer ça, parce que Cole est sorti 43, puis Lane est sorti 62. Bon, là, c'est sûr qu'à un moment donné, le rang de sélection, il faut en revenir puis oublier ça. Mais il en demeure pas moins que Hutson a un très, très bon développement cette année à l'Université à Boston, même s'il n'a pas les stats de son frère au même âge.
Tu dis ça, mais si le repêchage était à refaire aujourd'hui, Lane Hutson sortirait top 10 presque assurément, non?
Oui, mais tu sais quoi? Peut-être que... Oui, mais là, on compare, comme j'ai dit, pour d'autres joueurs, on compare des gars qui ont deux ans de différence. Mais Cole Hutson, je crois, si on faisait le repêchage 2024, il sortirait beaucoup plus haut.
OK.
Et là, je prends pas mes messages, point poli, je fais juste vérifier quelque chose.
Alors, c'est pour ça. Alors, Hutson, d'après moi, a tout pour devenir défenseur numéro un à Washington, éventuellement, avec la retraite de John Carlson. Et puis, c'est ça. Je trouve que... Je ne sais pas... Je pense pas que les Canadiens le regrettent nécessairement. Mais ça a été quand même un excellent choix pour eux et je pense que je l'avais même mentionné au balado sur le repêchage.
Oui.
Qu'est-ce que tes recherches t'ont montré, Mathias?
J'apprécie la question d'Hugotin
qui
nous permet d'en discuter. Mais d'abord, avec Dvorak, c'est trop loin. Puis à ce moment-là, Marc Bergevin a fait un truc de panique. Fait que c'est difficile de transposer ça avec l'administration actuelle, comme tu le disais. Et si le Canadien avait été en amour avec Cole Hutson, tu gardes ton 26e, parce que le Canadien repêchait 26e.
Ouais.
Tu dis, il va être là dans ces eaux-là, puis on garde notre choix de fin de deuxième tour. qui nous a servi à avancer à 21 pour repêcher Michael Hage. Fait que si tu dis Cole Hutson va être une superstar, tu le repêches à 26 ou même t'avances, là, il n'aurait pas été disponible. Ça a donné... Le choix offert aux Kings était 57e
ouais.
pour avancer. C'était le gardien Carter George qu'on a ouais. vu avec l'équipe canadienne. Fait que si tu l'aimes à ce point-là, de Dvorak est loin, tu repêches Cole Hutson à 26.
Bien, je suis d'accord avec toi, Mathias, parce que si Hudson avait été en avant de Michael Hage sur la liste, ben c'est lui que le Canadien aurait pris, que ce soit 21 ou 26.
Voilà.
Donc, on l'aimait, mais peut-être qu'on l'aimait comme, OK, s'il est encore là à notre choix suivant, ouais. par hasard, on va le prendre.
Et je pense qu'on voulait aussi combler d'autres besoins de l'organisation ouais. parce ouais. qu'on a un Lane Hudson.
Ouais.
Sans être un doublon, c'était quand même un modèle qui pouvait se ressembler.
C'était un modèle qui pouvait se ressembler. Moi, je trouvais que Lane Hudson, c'est Lane Hudson. Là, il est dans, vraiment ouais. dans une catégorie de joueurs. Alors, j'aurais pas hésité à prendre Cole quand même. J'avais Cole 14e sur ma ouais. liste. 14e, puis je regrette de l'avoir eu 14e. Je pense que je devrais l'avoir. J'aurais dû le mettre plus haut.
Bon. Écoute, ça met fin à notre émission particulière.
Mm-hmm.
Pierre-Alexandre Girard.
Merci
beaucoup. Jacob, qui est venu nous assister aujourd'hui et qui a eu l'éclair de génie de penser à porter notre serpent parce qu'on l'avait oublié. Simon Snake Boisvert. On se donne rendez-vous, nous, vendredi, pour les abonnés qui vont avoir ouais. droit à l'entrevue de Kent Hughes et le vendredi suivant pour tout le monde.
Ouais.
Puis lundi prochain, une autre émission régulière de notre régulier. Studio.
Fait que ceux qui n'ont pas démêlé tout ça, bien, ils ont juste à aller voir sur le Patreon, sur la chaîne YouTube. Puis vous allez voir, il y a du stock en masse dans les prochains jours.
Une chose qui m'a frappé de ce que Kent y a dit, c'est qu'il avait peur des serpents. C'est la première chose qu'il a dit.
Ah, c'est vrai, hein?
Parlant de Patreon, les gars, juste rappeler aux auditeurs que pour ceux qui ne sont pas déjà abonnés à ce cher contenu supplémentaire, sachez que le contenu supplémentaire, depuis le début de l'existence du Patreon, est encore disponible et qu'on fait également tirer encore 4 soupers avec nous trois, dans le fond, parmi les membres. Alors, ça vaut vraiment la peine de s'abonner. Il y a d'autres contenus supplémentaires qui s'en viennent, puis il y en a évidemment un à chaque semaine.
Puis ça, c'est quoi? Ça remonte à presque un an, là?
Oui,
spécial Timmins, puis...
Ouais, c'est ça. Ouais.
OK. Good! Merci beaucoup. Bye!
Salut, les gars.